géopolitique.com. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la faim dans le monde. Mardi prochain, 16 octobre, est la journée mondiale de l'alimentation. Dans un récent rapport, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, s'alarme des conséquences du changement climatique sur la capacité des populations à se nourrir. La courbe est à la hausse pour la troisième année consécutive. Le nombre total de personnes sous-alimentées est passé de 804 millions en 2016 à près de 821 millions en 2017. Sécheresse en Afrique, inondations et tempêtes en Asie, les dérèglements climatiques de plus en plus nombreux et intenses menacent les progrès qui avaient été réalisés depuis le début des années 2000. Conflits, crise économique, variabilité du climat, trois ingrédients qui laissent pressentir que l'objectif de développement durable fin zéro à l'horizon 2030 est pour le moins inatteignable. Regard avec nos invités, Sylvie Brunel, géographe, économiste, spécialiste des questions de développement, professeur des universités à Paris 4 Sorbonne, bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
Dominique Burgeon, directeur de la division des urgences à la FAO, bonjour.
Bonjour.
Et Lambert Wilson, comédien, metteur en scène et ambassadeur pour la FAO, bonjour.
Bonjour.
La situation de la faim dans le monde ne s'arrange pas, elle s'aggrave même, autant dire que les défis sont immenses dans un contexte où la population mondiale ne cesse de croître. 10 milliards de personnes à l'horizon 2050, il faudra donc produire plus, également produire mieux alors qu'il devient de plus en plus compliqué de contester l'existence d'effets sanitaires des pesticides sur les humains. Produire plus alors que selon la dernière édition de l'Atlas mondial de la désertification. Plus de 2 millions de kilomètres carrés se dégradent chaque année dans le monde, l'Afrique et l'Asie étant les deux continents les plus touchés. 50% de la surface terrestre est aujourd'hui affectée par ce mécanisme lié aux variations climatiques et aux activités humaines. La FAO ne dit pas le contraire dans son dernier rapport, qui souligne qu'avec les conflits et les crises économiques, la variabilité du climat et ces phénomènes extrêmes sont une des principales causes de la sous-nutrition et de l'insécurité alimentaire dans le monde. Quelles sont, pour bien comprendre, les tendances récentes de la faim et de l'insécurité alimentaire, Dominique Burgeon ?
Je vous remercie. Effectivement, la FAO donc a produit, il y a de ça quelques semaines, ce rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Et comme vous l'avez bien dit, il est très préoccupant de noter que la tendance qu'on avait observée au cours de la dernière décennie d'une diminution constante du nombre de personnes sous-alimentées depuis 2 ans déjà, cette tendance s'est inversée. Et alors que nous avions atteint un minima autour de 780 millions de personnes sous-alimentées, l'an dernier, nous avons vu une augmentation à 804 millions et cette année à 821 millions de personnes sous-alimentées. Ensuite, la distribution dans les différentes régions est évidemment inégale, avec l'Afrique qui reste évidemment le continent le plus touché par la prévalence de la sous-alimentation, puisque 21% de la population, environ 256 millions de personnes, sont actuellement sous-alimentées, et c'est plus particulièrement évidemment l'Afrique subsaharienne qui est très préoccupante, puisqu'on a environ 23,2% de personnes qui sont sous-alimentées, ce qui veut dire quand même, au plan global, 820 millions, ça veut dire une personne sur 9. En Afrique subsaharienne, c'est environ une personne sur 4, une personne sur 5 qui est en situation de sous-alimentation. La situation s'est dégradée dans toutes les sous-régions d'Afrique subsaharienne, sauf peut-être en Afrique de l'Est, mais elle est à un niveau très élevé, puisqu'on est autour de 31%. La situation nous préoccupe également en Amérique du Sud, puisque la tendance est légèrement inversée, avec une augmentation, et elle reste évidemment en nombre très importante en Asie en général, puisqu'on est autour de 11%, et en Asie du Sud en particulier, puisqu'on est à 14% de la population qui est sous-alimentée. On voit aussi que, si on fait la somme Proche-Orient, Afrique du Nord, la tendance là aussi s'est inversée et on a une augmentation de ces tendances. Ce qui met bien en évidence que les trois causes qui ont déjà été identifiées l'an dernier par le rapport qui montrait qu'en fait il y avait trois causes essentielles qui étaient, comme vous l'avez dit, les conflits, quand même 60% des populations en insécurité alimentaire dans le monde, la variabilité climatique et les extrêmes climatiques, et puis effectivement les difficultés socio-économiques qu'un certain nombre de pays traversent. Donc tout ça venant évidemment se mettre au-dessus, je dirais, de la problématique de la pauvreté extrême et des inégalités, tout ça vient exacerber et vient effectivement créer des tendances qui nous préoccupent au plus haut point et sur lesquelles nous devons agir.
Sylvie Brunel, un commentaire sur la description que vient de faire Dominique Burgeon.
Non, le tableau clinique de la persistance de la faim est indiscutable. Cela fait de très longues années que nous espérons. Moi, j'étais au sommet de Rome en 1996, où on espérait diviser par deux le nombre de personnes qui souffrent de la faim d'ici 2015. Et c'était déjà un enjeu qui a été pris. On voulait passer à 400 millions. On voit bien qu'il y a une espèce de starving section, c'est-à-dire de groupes de population mondiale qui continuent à souffrir de la faim, qui représente à peu près une personne sur dix, mais beaucoup plus, comme l'a dit Dominique Burgeon, en Afrique subsaharienne, en Asie, des populations qui sont souvent des populations rurales, exposées à des écosystèmes qui se dégradent et qui n'ont pas les moyens d'inverser la tendance. En même temps, nous savons que pour faire face à la faim, il y a des moyens d'agir qui sont extrêmement efficaces. Moi, je les appelle les 7 P. Quand il n'y a pas de conflit, c'est-à-dire la paix, déjà, les agriculteurs vont mieux parce qu'ils peuvent récolter. Il faut des bonnes plantes parce que malheureusement, souvent, les plantes donnent des très faibles rendements. On est à 800 kilos par hectare, donc c'est très, très faible. Il faut de la pluie. Et là, on touche à tout ce qui est le changement climatique. Mais si on n'a pas de pluie, il faut des puits. C'est-à-dire, il faut de l'irrigation pour pouvoir faire face aux aléas climatiques. La pluie est extrêmement mal répartie. Souvent, les agriculteurs du Sahel vont semer et puis les pluies vont s'arrêter, donc ils vont perdre leurs semences. Il faut de la protection sociale, parce que souvent, ce sont des gens qui sont les plus fragiles, mais aussi de la protection de leurs agricultures face à un commerce international qui privilégie, bien sûr, les plus performants. Il faut de la propriété. Le problème, c'est l'insécurité foncière dans laquelle se trouve un grand nombre d'agriculteurs dans le monde. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas investir sur leurs terres parce qu'ils ne sont pas propriétaires de leurs terres. Et puis, il m'en manque un, parce que quand on dit qu'on va faire une énumération, on en oublie toujours un au passage, ce n'est pas grave, je le retrouverai. J'en ai déjà 6, je crois, hein, Marie-France.
Je vous poserai la question. Oui, voilà. Tout à fait, je les ai notées.
Bon, ça va, j'ai droit à une perte. D'ailleurs, oui, ce sont les pertes. Les pertes, c'est-à-dire le problème de la protection des cultures face aux ravageurs. Nous avons aujourd'hui la moitié des récoltes qui sont perdues dans un grand nombre de pays à cause des ravageurs. Et ça, c'est dramatique aussi parce que la mondialisation, c'est la mondialisation des virus et des bactéries.
Alors, Dominique Burgeon nous a dressé ce panorama des régions les plus touchées. Moi-même, j'avais des chiffres encore plus préoccupants que vous sur l'Afrique, avec un pourcentage de la population en sous-alimentation. Alors après ça, est-ce que c'est de la malnutrition, de la sous-alimentation ou de la faim Mais c'était 29,8%, donc on est presque à 30% dans ces situations de toute façon dramatiques. Bon, les chiffres. Lambert Wilson, vous souhaitez réagir sur ce qui s'est dit jusqu'à présent, ou est-ce qu'on peut même peut-être évoquer déjà la question de la part des questions climatiques sur la faim dans le monde par rapport notamment au conflit? On parlera du rapport du GIEC qui est paru cette semaine et qui, là aussi, ne laisse pas présager des choses très roses en la matière.
Non, j'ai l'impression que tout a été dit par vous et par vos invités déjà. Ce qui est évident, c'est pour moi, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu non pas être ambassadeur, mais en tout cas prendre position en faveur de la FAO, c'est parce que pour moi, il y a un lien direct entre l'écologie, qui a toujours été mon cheval de bataille, et bien entendu l'agriculture, et par extension, malheureusement, la faim dans le monde. Donc, ici, parmi vous, je suis un élève, j'écoute, je note, j'apprends ces chiffres de façon assez terrible, parce que on a l'impression qu'on ne peut rien faire. C'est le même problème que celui de l'écologie, que celui du réchauffement climatique. Moi, j'œuvre aux côtés de Greenpeace parallèlement. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et en même temps, on est là pour travailler. Donc, mon travail consiste surtout à emmagasiner toutes ces informations. À ce stade-là, je ne suis pas
Non, mais votre engagement est intéressant et j'allais vous poser la question peut-être à un autre moment dans l'émission, mais puisque nous y sommes.
Mais parce qu'en fait, je ne peux pas séparer l'état de la planète de ce qui arrive aux hommes. Il y a une écologie qui ne s'occupe pas des hommes, c'est évident. Et d'ailleurs, des organisations très performantes et voire agressives en matière d'écologie ont un peu mis les hommes de côté. Ils reviennent en arrière. Mais je ne peux pas, moi, séparer le sort des hommes. Or, on est tous sur le même bateau. Et donc, il faut que nos actions soient cohérentes pour qu'on arrive à vivre trop nombreux sur ce même bateau.
Alors, je sais que Dominique Burgeon et Sylvie Brunel souhaitent réagir. Dominique Burgeon.
Je pense que ce que Lambert Wilson dit est très important quand il met l'homme au centre des préoccupations. Je pense que c'est très important. Et moi, personnellement, et nous, ce qui nous choque énormément, c'est que l'an dernier, en 2017, au XXIe siècle, on a attiré l'attention du monde sur le risque de 4 famines, sur une famine qui avait lieu au Sud-Soudan et sur 3 risques de famine qui restent d'ailleurs très élevés, surtout au Yémen, en Somalie et dans le reste du Nigeria. Et ça, je pense qu'on a trop souvent tendance à oublier la centralité de l'homme, le fait que quand nous déclarons une famine sur des facteurs objectifs et rigoureux, il est déjà trop tard pour beaucoup de gens. L'exemple de la famine en Somalie en 2011, c'est 260 000 personnes qui périssent. Au moment où on déclare, parce qu'on atteint effectivement tous ces critères, il y en a déjà plus ou moins 50% qui sont mortes. Et donc, si vous voulez, on ne réagit pas assez à tous ces signaux. Tous ces rapports, finalement, sont des, pour beaucoup de gens, sont des statistiques, et on ne prend pas suffisamment des actions fortes pour effectivement éviter ce genre de situation de se produire. Et on connaît les solutions.
En plus, si je peux me permettre, en tant que citoyen français, ce n'est pas quelque chose qui se passe loin de moi et sur lequel je peux fermer les yeux, puisqu'en fait, le résultat de cette injustice m'atteint dans mon quotidien, en France, puisque finalement les victimes de la désertification, des conflits, viennent aux portes de la France et de l'Europe. Donc je ne peux pas fermer les yeux sur ça, comme avant. Je pourrais très bien se dire, effectivement, il y a des gens qui meurent de faim quelque part dans le monde, mais moi, ma vie, elle continue. Non. Nous sommes véritablement complètement interconnectés.
Sylvie Brunel.
Oui, je trouve que cette intervention de Lambert Wilson est extrêmement importante. On ne peut pas dissocier l'humanité de la planète. C'est un tout inextricablement lié. En tant que géographe, le concept de surpopulation me gêne beaucoup parce que je sais très bien que tout dépend des techniques que nous mettons en œuvre pour utiliser, aménager un milieu, que l'homme a les moyens de vivre nombreux sur la Terre. Déjà au XVIIIe siècle, Malthus disait qu'on était trop nombreux, on était 1 milliard. Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards, demain nous serons peut-être 10 milliards. Ce que je dis, c'est que nous avons la possibilité, les moyens d'avoir une planète durable, vivable, en trouvant des solutions. Je vais vous en donner un exemple sur lequel je travaille. Vous savez, j'ai un master à la Sorbonne, où j'envoie mes étudiants passer de longs mois sur le terrain dans des pays de la faim. Et par exemple, j'envoie mes étudiants travailler sur la muraille verte au Sénégal. La muraille verte, c'est cet énorme projet qui a été mis en œuvre au nord du Sénégal, dans cette région sahélienne où les écosystèmes sont très dégradés, où les affrontements, ou en tout cas les tensions entre les éleveurs et les cultivateurs sont fortes. Eh bien, ce qui m'émerveille, c'est qu'on arrive à reverdir le Sahel et à lui donner l'impression d'une Normandie et à faire des jardins familiaux pour les femmes. C'est-à-dire que ne baissons pas les bras, nous avons des solutions. Certains pays ont vaincu la faim. Il faut bien distinguer les situations d'urgence, c'est-à-dire ce dont parlait Dominique Burgeon, c'est-à-dire des pays qui sont dans des états à la fois d'insécurité, climatique, politique, économique. Et à ce sujet, j'ai oublié mon dernier P, qui était les prix. Aucun agriculteur ne travaille s'il n'est pas rémunéré correctement pour son travail. Donc ça pose la question des filières. Et d'ailleurs, la FAO, c'est un de ses travaux, c'est-à-dire travailler sur le renforcement de ces filières agricoles, avec le FIDA, le Fonds international de développement agricole, et puis le volet d'urgence, le PAM, le Programme alimentaire mondial. J'ai travaillé 5 ans à Médecins sans frontières, 12 ans à Action contre la faim. Nous travaillons main dans la main avec ces organisations, parce que nous avons des solutions. La famine, c'est vraiment quelque chose de politique. Ce sont des minorités qui vont être conduites à la faim. Et nous, les ONG, nous, les Nations Unies, nous ne pouvons pas intervenir parce que, de toute façon, ces gens-là, ils sont désignés comme devant souffrir de la faim. La malnutrition chronique, la faim silencieuse, eh bien, c'est quelque chose de plus profond, de plus pernicieux. Pourquoi ? Parce que ce sont des populations très nombreuses dont les mécanismes d'adaptation et de survie se sont érodés. Ils sont dans ce qu'on appelle des pièges malthusiens, c'est-à-dire qu'ils deviennent effectivement trop nombreux par rapport à leurs ressources, à leur façon de pouvoir vivre sur ces écosystèmes. Et c'est pour ça que ces gens-là migrent, comme l'a dit Lambert. Mmh. Et c'est pour ça que nous sommes directement aussi concernés. Parce que dans un grand nombre de pays, le prix de la nourriture conditionne la paix sociale. Si les gens ne sont pas rémunérés, s'ils ne peuvent pas vivre dignement dans leur pays, ils partent. Ce sont ces jeunes du Sahel qui partent faute d'avenir. Mais ne pensons pas que nous n'avons pas de solution. Chaque fois qu'on prend le problème à bras-le-corps, les gens vivent mieux, la faim recule, et la FAO fourmille d'exemples d'opérations réussies. réussi. Donc, ne disons pas, c'est foutu. Non, ce n'est pas foutu. Nous pouvons sauver l'humanité sur une planète durable.
Ce n'est pas foutu. On va y revenir. Je vais vous donner la parole, Dominique Burgeon, mais pour juste apporter un chiffre à ce que Lambert Wilson disait précédemment sur son quotidien affecté par ces questions de la faim. La question des migrations, c'est l'Atlas de la désertification qui donnait ce chiffre de 700 millions de personnes qui pourraient être contraintes à l'exil d'ici 2050 compte tenu de la raréfaction des terres cultivables. Un commentaire ?
Je voudrais aussi rebondir sur ce qui vient d'être dit, justement, par rapport même à cette fatalité. Effectivement, il n'y a pas de fatalité. Et il n'y a même pas de fatalité par rapport à la question des famines, je dirais. La question des famines qui est vraiment inacceptable au XXIe siècle. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience, effectivement, du lien très fort qu'il y a entre les conflits et la sécurité alimentaire. Je pense que ça a été une avancée au moins politique très importante. Le Conseil de sécurité, en mai, le Conseil de sécurité des Nations Unies, a adopté une résolution à l'unanimité sur le lien entre conflit et sécurité alimentaire, appelant toutes les parties à des conflits à respecter l'accès aux humanitaires, aux denrées, assurer l'approvisionnement, assurer le fonctionnement des marchés, protéger les actifs, les moyens de production agricole des populations. Donc ça, je pense que c'est un point très important. Le fait qu'on voit qu'il y a effectivement ce lien politique, le secrétaire général des Nations Unies a demandé à toutes les agences des Nations Unies de contribuer aux efforts en matière de maintien de la paix. Raison pour laquelle une organisation comme la FAO s'investit en fournissant une information régulière, mais aussi s'investit par des actions concrètes, notamment en tenant compte du fait que de nombreux conflits au niveau local résultent de différences de vue en matière d'accès à l'eau, d'accès au pâturage, d'accès aux ressources, aux puits, etc. Et donc, il y a des solutions pour prévenir tout ça. Raison pour laquelle on s'investit aussi dans le cœur des situations d'urgence. Vous savez, on a tendance à oublier que dans les situations de conflit, par exemple, on a une image très simpliste de la situation qui veut que tout s'arrête. Mmh. Quand il y a une guerre, tout s'arrête, il n'y a plus d'agriculture, et donc les victimes attendent une aide alimentaire qui arrivera ou n'arrivera pas du ciel. Non. Et ce qu'on oublie, c'est que dans les situations de conflit, on continue à produire. Par exemple, un pays comme la Syrie, jusque l'an dernier, produisait grosso modo 50% de ce qu'il produisait avant la crise. Un pays comme le Sud-Soudan, il y a un an ou deux, produisait encore 1 million de tonnes. C'est de plus en plus difficile, si vous voulez, pour les agriculteurs de produire, mais malgré tout, ils essayent. Et donc, notre rôle, notamment à la FAO, c'est de les aider, c'est de leur fournir tous les moyens pour essayer, finalement, de continuer leurs activités agricoles et donc de ne pas avoir une dépendance extrême par rapport à une aide extérieure qui viendra ou qui ne viendra pas. Évidemment, la question du Yémen est très compliquée, mais là aussi, pour l'instant, la FAO a des interventions sur l'ensemble du territoire national qui vise justement à aider ces populations qui n'auront pas un accès régulier à une aide alimentaire qui arrivera ou qui n'arrivera pas. Donc, en leur donnant des moyens une fois par an ou deux fois par an de produire, de protéger leurs animaux, de protéger finalement ce qui fait le cœur de leurs moyens d'existence.
Alors, j'allais vous poser une question. La question des conflits vient s'ajouter, ce qu'on évoquait en début d'émission, mais on ne va pas avoir beaucoup de temps de développer tout ça. C'est la question du climat. Ouais. Juste, Lambert Wilson, vous souhaitez...
C'est au cœur du débat, je trouve. Personnellement.
Et la situation n'est pas prête de s'arranger, alors
Simplement, voilà, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas prête de s'améliorer? Parce que finalement, les citoyens élisent notre action individuelle. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que voilà, la FAO travaille, les ONG travaillent, mais que font les citoyens? Ils ont la possibilité d'élire. Là, ils élisent en Amérique un président qui détruit absolument tout ce qui a été construit au niveau international en matière de protection de l'environnement. C'est absolument terrible, mais... Pour les auditeurs, il y a une chose qui est importante, c'est on peut agir. C'est le fameux logo d'un peu de la FAO, c'est nos actions déterminent notre futur d'une certaine façon. Mmh. C'est-à-dire que parmi nos actions, il y a la possibilité d'élire des gens qui ont un véritable programme lié à l'écologie, parce que c'est une catastrophe.
Ouais, il est vrai que le retrait des États-Unis de l'accord sur le climat, de l'accord de Paris, n'est pas là pour contribuer à améliorer la situation.
Mais c'est un signe extrêmement grave qui est envoyé, je trouve, parce qu'en plus, il est accompagné d'un succès économique local, et donc forcément, ça peut perturber les mentalités. On peut se dire, mais finalement, c'est peut-être ça la solution. Il faut complètement fermer les frontières, être isolationniste, et puis relancer le charbon. Donc, c'est un exemple catastrophique. Mmh. Pour moi, en tant que militant écologiste, la situation principale, c'est celle du réchauffement climatique, et là, les chiffres sont terribles.
On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Sylvie Brunel, Lambert Wilson et Dominique Burgeon.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Mardi prochain, 16 octobre, est la journée mondiale de l'alimentation. Dans un récent rapport, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, s'alarme des conséquences du changement climatique sur la capacité des populations à se nourrir. Nous retrouvons nos invités, Sylvie Brunel, géographe, économiste, spécialiste des questions de développement, professeur des universités à Paris 4 Sorbonne, Dominique Burgeon, directeur de la division des urgences à la FAO, et Lambert Wilson, comédien, metteur en scène et ambassadeur pour la FAO. Le climat, dans un tout récent rapport, les experts prévoit qu'au rythme de réchauffement actuel, le seuil de 1,5 degré sera franchi entre 2030 et 2052. Il est vrai que quant à l'impact sur l'agriculture, sur l'alimentation, les chiffres sont tout à fait intéressants. Perte de biodiversité, plus de la moitié de l'habitat naturel, c'est-à-dire que finalement 4% des vertébrés disparaissent quand l'augmentation est de 1,5 degré contre 8% à 2 degrés. Idem pour les cultures céréalières avec des baisses de rendement plus important avec une augmentation de la température en moyenne de 2 degrés et des pluies torrentielles, le risque est plus élevé à 2 degrés qu'à 1,5 degré dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord, l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord. Un commentaire sur ces chiffres.
Et la sécheresse augmente encore plus. La sécheresse augmente et bien entendu force les populations à se déplacer parce que la sécheresse est aussi importante que les pluies diluviennes. C'est difficile de se dire qu'on va on va y arriver, mais bon.
Alors, Sylvie Brunel.
Alors, il faut imaginer que l'écosystème Terre, il est fermé. C'est-à-dire que l'eau dont on dispose sur la Terre, elle ne s'en va pas. C'est-à-dire, elle se répartit différemment. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des populations de plus en plus nombreuses dans des milieux de plus en plus vulnérables. Donc, ces populations, elles sont soumises à la multiplication des épisodes violents. Le problème, ce n'est pas l'augmentation de la température, c'est la rapidité des changements face à des populations qui dépendent de leurs ressources pour vivre. Si on dit, c'est foutu, de toute façon, on va décourager les gens. Donc, il faut partir du principe que nous avons des solutions. La géographie nous montre que de tout temps, l'humanité a trouvé des solutions face à la pente, face au froid, face à la sécheresse. Aujourd'hui, le CO2 qui est dans l'atmosphère, de toute façon, il va y rester un siècle. Nous avons 3/4 des revenus qui sont des crédits qui sont utilisés pour la lutte contre le changement climatique, qui sont utilisés pour ce qu'on appelle l'atténuation. Je ne conteste pas du tout ça, mais ça revient surtout souvent à une guerre des technologies vertes, une guerre géopolitique entre la Chine, le Brésil, les États-Unis, l'Europe, etc. Ce CO2, il a déjà commencé à changer la situation d'un certain nombre de pays. Donc il faut travailler à fond sur l'adaptation. Pour l'instant, l'adaptation n'a qu'une part très limitée des crédits. Or, l'aménagement du territoire, les réponses, la mise en place de systèmes d'irrigation, la gestion pastorale, la gestion des plantes, on va perdre, vous l'avez dit, 20 millions d'hectares de rizières dans les deltas et les estuaires. Or, le riz, c'est l'aliment qui nourrit les populations nombreuses de l'Asie. Donc, il y a une infinité de solutions dans l'agroécologie, dans la foresterie, dans des systèmes qui demandent énormément de mobilisation sur des territoire, c'est-à-dire qu'il faut travailler non plus cette fois-ci à l'échelle planétaire, il faut travailler à l'échelle de chaque région, parce que c'est différent en matière de sol, en matière de technique, en matière de filière. Et à chaque fois, les solutions, on les trouve. C'est ce que montre la FAO, on trouve des solutions. Simplement, si on a une vision globale et planétaire, on va être complètement submergé par l'ampleur du défi. En revanche, quand on se penche sur chaque territoire, on dit, mais finalement là, on peut planter des arbres qui vont capter l'azote, on peut faire une association entre différentes plantes, on peut introduire des variétés plus résistantes à la sécheresse, on peut introduire par exemple des systèmes de préservation des récoltes parce qu'aujourd'hui les greniers sont dévastés par les ravageurs. Et ces solutions, elles demandent finalement simplement que nous soyons conscients que cette faim, elle persiste en dépit des cris d'alarme, mais qu'elle n'est pas inéluctable, elle n'est pas une fatalité. Tous les pays qui s'attachent à cette question, qui prennent en compte leurs agriculteurs, qui installent la démocratie, qui mettent en place des systèmes d'information, eh bien, ces pays-là, ils enregistrent des résultats. Et en plus, ils retardent les effets du changement climatique sur leur territoire, parce que quand vous reboisez, quand vous reverdissez, eh bien, vous limitez l'impact des fluctuations, l'impact des sécheresses, l'impact de l'albédo, l'impact de tout ce qui est l'érosion des écosystèmes.
Dominique Burgeon, Lambert Wilson.
Allez-y.
Effectivement, je pense que le rapport dont vous avez fait état en prélude à ce débat, effectivement, met en évidence l'importance des aléas climatiques et des extrêmes climatiques. Quand on parle de changement climatique, finalement, il y a deux types. On voit des changements lents, on parle d'augmentation du niveau de la mer, etc., réchauffement. Mais finalement, quand on est un petit producteur, ce qui nous préoccupe le plus, c'est le fait que on va être de plus en plus confronté à des extrêmes, comme Sylvie Brunel l'a dit. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que au cours de la période 1990-2015, on a eu un doublement du nombre d'extrêmes climatiques. On a en moyenne 213 événements climatiques extrêmes de grande ampleur sur Terre, ce qui est un doublement. Et en particulier, comme le disait Lambert Wilson, les sécheresses ont un impact considérable. Quand on voit que sur l'ensemble des catastrophes naturelles, quand on a des sécheresses, 80% du coût total est absorbé par le secteur agricole, ce qui n'est pas le cas dans d'autres types de catastrophes. Et quand on regarde l'ensemble des pays qui ont connu au cours des dernières années une augmentation du nombre de personnes en insécurité alimentaire, dans 36% des cas, c'était lié à des sécheresses importantes. Et d'ailleurs, au cours des dernières années, ce qui a plongé beaucoup de gens dans l'insécurité alimentaire, ce sont les phénomènes El Niño. En 2015-2016, il y en a de l'Alurin qui est en train de se développer. Et donc, on voit l'importance de finalement renforcer ce qu'on appelle la résilience des populations. La résilience face au climat concerne non seulement, effectivement, l'adaptation au changement climatique, mais aussi toutes les techniques qu'on connaît à l'heure actuelle en matière de réduction du risque de catastrophe. Donc, en matière, finalement, de toutes les mesures qu'on peut prendre pour, finalement, préparer les gens à mieux absorber ces chocs, à mieux transformer leurs moyens de produire pour effectivement mieux vivre avec ces situations. Et donc on voit que dans toute une série de situations, par exemple que ce soit avec des variétés de semences qui soient plus adaptées au stress, que ce soit avec des techniques de pêche comme on a pu les développer aux Philippines, où au lieu d'utiliser des lignes, on va utiliser des cageots, de sorte que si les pêcheurs ne peuvent pas aller en mer pour quelques jours, ils vont quand même récupérer leur...
Et dans la gestion
de l'eau, finalement, on a une gestion de l'eau plus durable. Et vous faisiez état de la Grande Muraille Verte. J'étais il y a quelques semaines au Niger, où nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial et avec le FIDA, où nous avons pu, finalement, avec la création de 2001, notamment, reverdir toute une série de paysages. Mais quand on reverdit certains paysages, ça veut dire qu'on remet la vie dans ces endroits, et donc on crée des opportunités pour les populations, et donc tout de suite on voit que ça a un impact sur l'emploi des jeunes, ça a un impact sur la migration, on voit que les femmes ont un rôle beaucoup plus important dans le processus décisionnel, et donc tout ça, on entre dans un cercle vertueux, pour dire que les solutions existent, mais qu'il faut agir, et qu'il est grand temps d'agir.
Lambert Wilson.
Ma réflexion, c'est un petit peu que ça, c'est un peu du wishful thinking, c'est-à-dire qu'il y a des actions, ce sont des pensées vertueuses, mais que la dégradation du climat, la dégradation de la biodiversité sur la planète et son résultat sur la sécurité alimentaire viennent d'un problème humain qui est l'avidité, le désir de ne pas partager, d'accumuler des richesses. Donc ça a provoqué finalement, depuis la révolution industrielle, cette catastrophe écologique qu'on subit en ce moment. Le problème, c'est que tant que on ne résout pas ce problème de l'homme, qui est celui de ne pas vouloir partager les richesses, on ne fera que des rustines efficaces, des rustines tout à fait vertueuses et souvent localement très efficaces. Mais le problème de base, c'est que on ne veut pas partager parce que on veut du rendement, du profit qui va profiter à très peu de personnes. Et l'état de la planète et l'état de la biodiversité et du réchauffement climatique, il est dû aussi à ça, et principalement à ça, ce désir de ne pas partager et de s'en mettre plein les poches. Tant qu'on ne résout pas ce problème-là, alors comment le résout-on? Je ne sais pas.
Alors pour ajouter de l'eau à votre moulin, on peut constater aussi, Sylvie Brunel, que les pays pétroliers miniers sont souvent des pays de la faim.
Ah oui, alors ça c'est un paradoxe terrible, c'est que vous avez des pays qui ont des ressources absolument considérables et qui ne s'occupent pas de leur population, et c'est vrai qu'une partie des richesses ne sont absolument pas mise au service du développement des quartiers pauvres des métropoles ou des campagnes. Les campagnes sont oubliées. Quand on parle tout à l'heure de la faim dans le nord-est du Nigeria, c'est quand même le comble. Le Nigeria, c'est un pays qui à la fois est arrosé et formidablement riche potentiellement, et puis on arrive à cette famine dans le nord-est du pays à cause de Boko Haram, à cause de l'insécurité. En même temps, il faut faire très attention à un concept qu'on a trop souvent tendance à prendre tel quel. La richesse du monde, c'est pas un gâteau qu'on va partager en un certain nombre de parts, et si vous, vous en avez, c'est au détriment des autres. En géographie, on dit les ressources ne sont pas, elles deviennent. C'est-à-dire qu'une ressource, c'est toujours virtuelle. Vous pouvez tout à fait laisser une terre se dégrader, ne pas s'occuper d'elle, ne pas replanter, ne pas gérer l'eau, les arbres, etc. Et puis vous vous retrouvez face à un phénomène de désertification et d'exode. Vous pouvez aussi transformer cette terre et lui permettre à la fois de capter du CO2, c'est-à-dire d'être un piège à carbone, de fournir de la nourriture et d'être aussi dans la biodiversité parce qu'on réintroduit des haies, une infinité de plantes, etc. Et donc, l'idée que nous devons, comment dire, établir des restrictions face, par exemple, aux pays développés, parce que c'est souvent eux qui sont montrés du doigt, eh bien, elle n'est pas fondée dans le fait que, en réalité, la richesse d'aujourd'hui, la richesse du monde aujourd'hui, elle est infiniment plus importante que quand on était 1 milliard de personnes. Et il y a énormément de gens qui sont sortis de la pauvreté. En 1800, il y avait 1 milliard de pauvres, mais on était 1 milliard sur la Terre. Il y avait une toute petite portion de gens qui étaient riches. Mais le monde, c'est un monde de pauvres. Aujourd'hui, on est 7,5 milliards, il y a pratiquement 4 milliards de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Ces gens-là, ils n'ont aucune envie d'abîmer leur environnement. Et vous voyez aujourd'hui un élan des classes moyennes dans le monde entier pour la préservation de nos milieux. Regardez par exemple la Chine, qui aujourd'hui, après avoir eu des catastrophes environnementales colossales, fait le constat que ça ne peut plus durer, que sa croissance était instable, déséquilibrée, qu'elle a créé un creusement des inégalités. Donc aujourd'hui, la Chine, elle replante, elle agit sur le solaire, sur l'éolien, elle se pose la question avec les routes de la soie de comment mettre en place un système de coopération. On pourrait discuter, mais bon, c'est pas le problème là. Et nous avons des initiatives dans le monde entier de gens qui, parce qu'ils sont sortis de la pauvreté, veulent justement une planète durable. Donc, attention, parce qu'il ne faut pas tenir des discours, que ce soit des discours, comment dire, discriminants, stigmatisants. C'est certain qu'il y a des pays qui saccagent leur environnement, on est d'accord. Mais il y en a aussi beaucoup qui travaillent à une planète durable et qui font que, par exemple, on perd de la biodiversité en milieu tropical, mais on en gagne dans le milieu tempéré. On perd des récoltes dans les pays du Sud, parce que les gens sont pauvres et que leurs rendements sont très faibles, mais aujourd'hui, le Nord produit de quoi nourrir ces mégalopoles qui sont complètement soumises à la fluctuation des prix des marchés et dont les gens, s'ils n'ont pas accès à une nourriture saine et durable, partent en masse et se font la guerre. La guerre pour les ressources, c'est dramatique. Donc essayons au contraire d'avoir une vision pacifiée. Ne dressons pas les gens les uns contre les autres et trouvons des solutions ensemble.
Alors, nourriture saine et durable, un autre volet de l'insécurité alimentaire, outre qu'elle contribue à la dénutrition, c'est le fait qu'elle favorise l'accès pondéral et l'obésité. On sent là aussi une sorte de paradoxe.
Oui, en fait,
Dominique Bergeon.
En fait, c'est vrai que jusque maintenant, dans le cadre de ce débat, on s'est essentiellement penché sur la question de la sous-alimentation. Mais on n'a pas du tout abordé la question de la malnutrition. La malnutrition qui est aussi un véritable fléau quand on pense aux problèmes en particulier liés au déficit de croissance qui dans le monde affecte à l'heure actuelle quand même 151 millions d'enfants de moins de 5 ans.
De la croissance osseuse.
Oui,
croissance.
Oui. Le retard de croissance qui illustre la malnutrition chronique qui effectivement va engendrer des déficits cognitifs, etc., qui va avoir un impact sur plusieurs générations. On parle aussi du fait que effectivement l'émaciation, qui est un problème énorme, qui affecte 50 millions d'enfants.
C'est
un déficit pondéral, c'est une faim brutale, c'est une faim aiguë, c'est la faim qu'on traite dans les urgences humanitaires,
dans les centres
thérapeutiques, etc. Mais effectivement, à l'heure actuelle, on est confronté aussi au problème de l'obésité, qui pour les adultes affecte 672 millions d'adultes dans le monde, et aussi 38 millions d'enfants. Ce qui est paradoxal par rapport à cette question, c'est qu'on a de l'information selon laquelle les familles les plus pauvres sont aussi les plus vulnérables à l'excès pondéral. Pourquoi ? Parce qu'elles n'auront pas les moyens d'acheter des aliments de qualité, qu'elles n'auront pas les moyens d'avoir un accès régulier à ces aliments. Et donc, quand elles auront accès elles vont avoir finalement un réflexe de vouloir manger de façon plus... plus
mais c'est surtout que le gras et le sucré, c'est ce qui est
voilà,
moins cher.
Le rapport qu'on a sorti met en évidence qu'effectivement, il y a de nouveau un impact du changement climatique sur la nutrition. Puisque changement climatique, extrême climatique, conduisent à des problématiques de diminution de la qualité des nutriments, de diminution de la diversité de ces aliments. Et donc, raison pour laquelle, voilà, on a de nouveau... l'impact des aléas climatiques sur la question de la nutrition, et donc il nous faut aussi agir sur ces aspects. Et on connaît aussi les solutions en matière justement de bonnes politiques, de promouvoir des politiques qui prennent beaucoup plus en compte la dimension du risque, des systèmes d'information et toute une série de mesures qui peuvent être mises en œuvre pour effectivement diminuer ces problématiques. Et donc je pense que c'est très important.
Alors si on devait conclure, parce que malheureusement le temps nous l'indique aussi, ce constat, la mondialisation n'a pas empêché la faim dans le monde. La question aujourd'hui, c'est de volonté politique, entre autres choses.
Bien sûr.
Lambert Wilson.
C'est totalement lié à la volonté politique. Ça marche quand la politique est forte et quand la politique prend des décisions drastiques. Regardez ce qui s'est passé avec le trou d'ozone. Hein. Je veux dire, interdiction formelle, réduction du trou d'ozone. Hein. Donc, on est totalement lié à la volonté politique. Donc, notre choix individuel, ce que je disais tout à l'heure, c'est de bien choisir ceux qui nous représentent et ceux qui agissent pour nous complètement. Et aussi au titre individuel, je tiens, puisqu'on parle de nourriture là, nous pouvons aussi prendre des décisions individuelles, savoir d'où vient la nourriture ? Éviter, par exemple, le transport des marchandises à travers le monde. Se poser la question de ce qu'on achète. D'où ça vient ? C'est fabriqué par qui ? Ça, c'est une question individuelle. Le politique agit à très haut niveau et de façon très puissante, mais nous pouvons aussi remettre en question quotidiennement nos actes, nos choix. En ce qui concerne l'alimentation, qui est pratiquement une décision fondamentale de notre quotidien à tous. Savoir d'où ça vient, limiter l'utilisation du plastique, par exemple, dans les emballages, etc. Mille choses qui concernent l'alimentation. Être cohérent dans nos actes.
Et consommer moins de viande aussi, Sylvie Bonnel ?
Alors, je voudrais pas, au moment de la conclusion, me lancer dans ce débat qui nécessite à lui seul une émission entière. En 1960, on était 3 milliards sur la Terre, il y avait 1 milliard de personnes qui souffraient de la faim. Aujourd'hui, on est 7,8 milliards sur la Terre, il y a toujours 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim. Ça veut dire qu'on a à la fois fait des progrès considérables, mais que ce milliard de personnes devrait nous mobiliser considérablement parce que ce sont des pauvres qui sont vulnérables, qui sont exposés aux fluctuations climatiques de façon particulièrement brutale et aux inégalités de façon particulièrement violente. Nous avons les solutions pour régler la question de ce milliard de personnes, nous avons les outils, nous avons les systèmes d'information. Retroussons-nous les manches, arrêtons de penser que tout est foutu, que la planète court à la catastrophe. Ce n'est pas comme ça que nous y arriverons. La faim peut être vaincue et tous les pays qui ont réussi à la surmonter le montrent quotidiennement.
Dominique Burgeon.
Des exemples concrets existent de volonté politique. La volonté politique est fondamentale. Nous avons des pays avec lesquels nous travaillons. Je pense par exemple au programme 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens au Niger, qui est un programme qui, quand il est soutenu, montre son impact. On parvient à sortir des personnes de la faim. Je pense au programme des filets sociaux en Éthiopie, où on voit que le gouvernement a massivement investi pour améliorer la sécurité alimentaire de ces populations, a mis en place des systèmes de protection sociale, a investi dans les infrastructures, et où on voit que sur une période de 10 ans, 1,5 million de personnes ont été sorties de l'insécurité alimentaire extrême. Les solutions existent, comme l'a dit Sylvie Brunel, retroussons-nous les manches, investissons, mobilisons la volonté politique, continuons pour notre part à faire le plaidoyer, à mettre tous ces chiffres, à mettre les décideurs devant l'évidence et prenons des actions, car les solutions existent et on peut les mettre en œuvre.
Alors, si je peux rajouter juste, informons-nous, parce que la formation, elle est accessible. Il faut s'informer. Ça, c'est notre possibilité en tant qu'individu et citoyen.
Les grandes famines ont disparu de l'histoire de l'humanité. Ne laissons pas revenir les famines naturelles.
Alors, le problème de la faim, on l'a compris, est une question profondément politique puisqu'elle engage la responsabilité des gouvernements par rapport aux plus pauvres. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Sylvie Brunel, géographe, économiste, spécialiste des questions de développement et professeur des universités à Paris 4 Sorbonne. Dominique Burgeon, directeur de la division des urgences à la FAO. Et Lambert Wilson, comédien, metteur en scène et ambassadeur pour la FAO. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, nous parlerons de l'Afghanistan.